l'aventure, vous direz, dont les Bretons firent un lait.
Qui deus a donné et science, et de parler bonne éloquence, ne sont d'oeil désir nécessaire. En sedeit mou volontaire moustrer, quand uns grands biens es mout holz, donc ad primes est il florit, et quand loitz es de plusieurs, donc ad épandu ses flour.
Rassurez-vous, nous ne continuerons pas en ancien français. Marie de France écrivait en ancien français, la langue du XIIe siècle, ça ressemble au français moderne, mais c'est suffisamment éloigné de notre langue pour que nous ayons choisi de vous lire une traduction.
Celui à qui Dieu a donné la science et l'art de bien dire ne doit pas se taire ni se dérober, mais se manifester de grand cœur. Quand un bel exploit trouve une large audience, il est dans sa première floraison. Et quand il est unanimement loué, alors ses fleurs se sont épanouies. C'était la coutume des anciens, comme en témoigne Priscien, de s'exprimer dans les livres qu'il écrivait jadis, avec beaucoup d'obscurité, en pensant aux générations à venir et à ceux qui devaient apprendre leurs écrits. Il leur laissait la faculté de glosser la lettre et d'y apporter le surplus de leur intelligence. Les philosophes le savaient bien, et ils en étaient convaincus au fond d'eux-mêmes. Plus passerait le temps, plus on ferait œuvre de subtilité, et mieux on saurait se garder de ce dont on doit s'abstenir. Qui veut se garantir contre le vice doit se consacrer à l'étude et entreprendre une œuvre difficile. On peut ainsi se tenir le plus à l'écart du vice et échapper à une grande souffrance. C'est pourquoi j'ai eu l'idée d'écrire un bon récit en le traduisant du latin au français. Mais je n'en aurais pas gagné une grande estime. Tant d'autres l'ont entrepris. J'ai alors pensé au lait que j'avais entendu raconter. Je savais parfaitement que ceux qui en furent les premiers auteurs et qui les répandirent ensuite les avaient composés pour rappeler les aventures qu'ils avaient entendues. J'en ai, oui, raconté beaucoup. Je ne veux pas les laisser dans l'oubli. Je les ai donc mis en rime et j'en ai fait une œuvre poétique. Combien de veilles y ai-je consacrées ? En votre honneur, noble roi, qui êtes si preux, si courtois, vous que salue toute joie, vous dans le cœur de qui tout prend bien racine, j'ai entrepris de rassembler les laits et de les raconter en vers. Je pensais, et je me disais en mon cœur, sire, que je vous en ferai présent. S'il vous plaît de les recevoir, vous m'emplirez d'une grande joie et j'en serai heureuse à jamais. Ne me tenez pas pour outrecuidante si j'ose vous faire ce présent. Écoutez maintenant, le récit commence.
Donc on vient d'entendre le prologue des laits qui met en avant une parole et la transmission de la parole comme une parole vivante. En utilisant plusieurs lieux communs qu'on rencontre souvent dans les prologues de textes médiévaux, le premier c'est la parabole des talents, puisque les premiers mots du prologue c'est « qui d'eux s'a donné et science et de parler bonne éloquence, ne s'en dé tésir ne scellé ». C'est-à-dire si on a le don, une faculté de parole, il faut la faire fructifier. C'est la parabole des talents qui est implicitement présente. Il ne faut pas thésauriser, mais faire fructifier. Et l'autre parabole qui est également évoquée, en fait, ici, c'est celle du semeur, la parabole du semeur qu'on rencontre chez Matthieu et Luc, notamment, avec l'idée que la parole, si elle tombe dans de bonnes oreilles, va germer et produire des fleurs. C'est en gros entendre qu'il y a des oreilles, qui résume d'ailleurs cet appel à l'écoute, à une écoute intériorisée, une écoute active et non pas passive. D'ailleurs, c'est Chrétien III, hein, au début du conte du Graal, qui dit qu'il sème et commence le roman. Il fait semence d'un roman qu'il commence, et il le sème en si bon lieu qu'il espère porter des fruits. On a quelque chose de similaire ici, par le don d'Élet, la dédicace à Henri II, roi d'Angleterre, Plantagenet, qui est le second mari d'Aliénor d'Aquitaine. Donc la parole, elle est présentée comme une transmission, une chaîne de transmission. Marie a entendu d'Élet, elle les transmet à son tour, et on a une parole et un échange littéraire qui... qu'elle espère fructueux, avec l'idée que la parole est un vecteur aussi de plaisir et d'échange qu'on va retrouver à la fois sur le plan de l'échange amoureux et sur le plan de l'échange littéraire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a affaire à une narratrice et du coup, ça perturbe un petit peu le schéma habituel, puisque d'une certaine façon, cette narratrice usurpe un rôle masculin, hein, qui est celui du semeur, et qui fait que le roi, à qui elle offre les laits, occupe d'une certaine façon la fonction féminine. On a une situation décalée, hein, un peu étonnante, dans ce fonctionnement d'une parole féminine aussi. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver également dans la suite des laits, notamment avec la biche qui parle dans Guijmar. C'est une biche, mais en même temps, elle a des bois de serre et elle est dotée de la parole. Donc il y a cette appropriation féminine d'un lieu commun qui, du coup, est infléchi et un peu revivifié. Alors vous avez peut-être noté qu'il n'y a pas le nom, hein, il n'y a pas de nom dans ce prologue. C'est dans le prologue de Guijmar que Marie se nomme en disant hein, « Marie et non, si suis de France ». Non, c'est même pas dans Guijmar, je dis une bêtise, c'est dans les fables. C'est dans les fables, un autre recueil qu'elle a écrit. Dans les laits apparaît en revanche le prénom de Marie. Justement dans le lait de Guijmar, c'est « Oyez Seigneur, que dit Marie ?» Mais le nom de Marie de France est inventé et fabriqué de toutes pièces par les critiques et les éditeurs à partir de cette mention qui apparaît dans les fables. Alors, la France, c'est à comprendre ici comme l'île de France. Et pourquoi cette précision? Parce que Marie écrit vraisemblablement, même certainement, dans la cour anglo-normande, donc du roi Henri II, qui est en Angleterre, où on parle l'ancien français à cette époque. Vous aurez noté peut-être le souci d'originalité affiché hein, dans le prologue, puisqu'elle précise qu'elle a écarté l'idée de réécriture de sources écrites latines pour choisir quelque chose qui est moins rebattu, qui est l'utilisation de sources orales, folkloriques, bretonnes. Donc une démarcation, une volonté de se démarquer de la mode de ce moment-là, puisqu'elle écrit dans les années 1160-1170, c'est-à-dire entre les romans antiques, les premiers romans antiques qui sont datés du milieu du XIIe siècle, et les romans arthuriens de Chrétien de Troyes. Elle est entre les deux, hein, à peu près. Pour ce qui est du mot « lait » lui-même, il vient d'une racine celtique qui signifie « champ ». Et donc on a affaire à des sources qui sont des sources accompagnées de musique à la harpe et à la rote, qui sont donc un genre lyrique. Elle dit bien qu'elle a entendu jouer et donc accompagnée de musique ses laits. Elle-même en fait en revanche des laits narratifs. Elle récupère le matériau narratif et en revanche le coupe de cet accompagnement musical. D'ailleurs, le choix de l'octosyllabe à rime plate, c'est d'une certaine façon le modèle standard de la narration à ce moment-là. Et ces laits sont faits pour être dits, en revanche, hein, et non plus accompagnés de musique comme les laits bretons dont elle s'inspire. Alors, l'unité de ces laits n'est pas évidente, ne serait-ce que du point de vue quantitatif, puisqu'ils oscillent entre une centaine de vers et 1600 pour Élie Duc. Certains utilisent la matière arthurienne, on le verra tout à l'heure, on verra des exemples, d'autres non. Le merveilleux est présent parfois, mais pas toujours non plus. On a une définition qui est donnée en général de conte d'aventure et d'amour, parce que la thématique amoureuse y est centrale, mais déclinée de manière assez diverse d'un lai à l'autre. Et c'est ce jeu de variation qui frappe et de diversité à l'intérieur du recueil. D'une certaine façon, on peut penser avec un critique qui est Roger Dragonetti que la musicalité perdue des lais breton est récupéré d'une certaine façon dans le projet d'un recueil dans lequel il y a des jeux d'écho, d'harmonie, d'opposition, des leitmotifs, donc une forme de musicalité récupérée dans la structure et la composition d'ensemble du recueil. Et puis c'est aussi la voix narrative qui dit « je », qui fait l'unité de ces laits et qui assume une fonction, on pourrait dire, de collecte, hein, puisqu'elle a collecté des laits entendus, qu'elle elle affiche le projet de les transmettre, remembrer en ancien français, hein, c'est en garder la mémoire, les transmettre, les conserver contre l'oubli. Voilà.
Je vais vous dire une aventure dont les Bretons ont fait un lait. Il s'intitule l'ostique. Ainsi l'appellent-ils en leur pays, je crois. C'est en français le rossignol et nightingale en bon anglais. Dans la région de Saint-Malo, il y avait une ville célèbre. Deux chevaliers y demeuraient et y possédaient deux maisons fortifiées. La ville méritait son renom grâce à la bravoure des deux barons. L'un avait épousé une femme sage, courtoise, élégante, qui menait une vie très digne, conforme aux usages et aux bonnes manières. L'autre était un homme encore jeune, bien connu parmi ses pairs pour ses prouesses et son grand courage. Il aimait se distinguer, il fréquentait assidûment les tournois, se montrant généreux et donnant largement de son avoir. Il s'éprit de la femme de son voisin. Il sollicita tant son amour, la poursuivit tant de ses assiduités, il était homme de si grand mérite, qu'elle l'aima passionnément pour le bien qu'elle entendait dire de lui. Ils s'aimèrent avec prudence, restèrent discrets et prirent garde de ne pas être surpris, inquiétés ni soupçonnés. La chose leur était facile, car leur demeure était proche, leur maison, leur salle, leur donjon étaient voisins. Il n'y avait pour barrière et séparation qu'un haut mur de pierre grise. Des chambres où couchait la dame, quand elle se tenait à la fenêtre, elle pouvait parler de l'autre côté à son ami et lui à elle. Et ils pouvaient échanger leurs cadeaux en les jetant et en les lançant. Tout allait selon leurs vœux et tous deux étaient heureux, si ce n'est qu'ils ne pouvaient pas se retrouver à leur gré, car la dame était étroitement surveillée quand son ami était dans le pays. Mais ils avaient au moins l'avantage de pouvoir se parler de nuit comme de jour. Personne ne pouvait les empêcher de se tenir à la fenêtre et de se voir de loin. Ils s'aimèrent longtemps ainsi, jusqu'à un printemps où alliés et prés reverdissent et où les vergers sont en fleurs. Les petits oiseaux voltigent allègrement sur les fleurs. Qui jouit de l'amour librement ne peut que s'y adonner tout entier. Je vous dirai la vérité sur le chevalier. Il s'y abandonna de tout son cœur, en échangeant paroles et regards, ainsi que la dame de son côté. La nuit, quand brillait la lune et que son mari était couché, elle quittait souvent son lit, se couvrait d'un manteau et venait se mettre à la fenêtre, attirée par son ami dont elle savait qu'il faisait de même, et elle restait éveillée presque toute la nuit. Il prenait plaisir à se voir, puisqu'il ne pouvait espérer davantage. À force de se lever et de venir à la fenêtre, elle fit que son mari en prit ombrage, et lui demanda plusieurs fois pourquoi elle se levait et où elle allait. « Seigneur, répondit la dame, il n'y a point de joie ici-bas, si l'on n'entend pas chanter le rossignol, c'est pourquoi je viens me placer ici. J'ai tant de plaisir à l'écouter, la nuit, qu'il me comble d'aise. J'y trouve tant d'attrait, je désire tant l'écouter, que je ne puis fermer l'œil. » À ce langage, le mari, dans un accès de colère et de mauvaise humeur, part d'un mauvais rire Il lui vient une idée. Il tendra un piège au rossignol. Tous les domestiques de sa maison savaient confectionner pièges, filets ou lacets. Il les pose ensuite dans le verger, sur chaque noisetier ou châtaignier. Il pose des lacets ou de la glu. Si bien qu'ils attrapent et capturent le rossignol, puis ils le remettent vivant à leur maître. Celui-ci, heureux de le tenir, entre dans la chambre de la dame. « Dame, dit-il, où êtes-vous ? Approchez, venez me parler. J'ai pris au piège le rossignol qui vous a fait tant veiller. Désormais, vous pourrez dormir tranquille, il ne vous réveillera plus. » Quand la dame l'entend, elle en est peinée et indignée. Elle demande l'oiseau à son mari, qui le tue avec cruauté en lui tordant le cou de ses deux mains. En vrai rustre qu'il est. Il jette le cadavre sur la dame, en ensanglantant sa robe, un peu sur le devant de la poitrine. Puis il sort de la chambre. La dame prend le petit corps, fondant en larmes et maudissant ceux qui avaient fabriqué les pièges et les lacets qui l'ont frustrée de sa joie. « Hélas, fait-elle, malheureuse que je suis, mais je ne pourrai plus me lever la nuit, ni aller me mettre à la fenêtre où j'ai pris l'habitude de voir mon ami. Il croira, j'en suis sûre, que je renonce à lui. Il faut que je trouve une solution. Je lui enverrai le rossignol et je lui ferai savoir l'aventure. » Dans un morceau de brocart où elle a raconté leur histoire en lettres d'or brodées, elle enveloppe le petit oiseau. Elle appelle un de ses serviteurs, lui confie son message et l'envoie à son ami. L'homme se rend chez le chevalier, le salue de la part de sa dame, s'acquitte de son message et lui présente le rossignol. Quand il a tout raconté et que le chevalier l'a bien écouté, celui-ci est désolé de ce qui est arrivé. Mais il ne tarda pas à se composer en homme courtois. Il fait forger un coffret, ni de fer ni d'acier, mais entièrement d'or fin, orné de pierres précieuses de très grande valeur, sur lequel on fixe un couvercle. Il y dépose le rossignol, puis il fait sceller la châsse et désormais ne s'en sépare plus. On raconta cette aventure qui fut bientôt divulguée. Les Bretons en firent un lait. On l'appelle le rossignol.
Alors avec ce lait du rossignol, on a un motif qu'on retrouve dans la poésie lyrique et courtoise, qui est l'amour de loin, ici l'amour à la fenêtre. Et malgré les dires de Marie de France dans le prologue, on sent des sources écrites latines qui apparaissent en filigrane là encore, notamment le motif du mur de séparation entre les deux maisons qui rappelle le mur qui sépare Pyrame et Thisbé dans les Métamorphoses d'Ovide. Ce qui est souligné ici, c'est le plaisir de l'amour comme échange visuel et verbal ou d'échange par signe à distance. Donc on a déjà dans la situation initiale cette une forme de sublimation de l'amour qui va se heurter à une radicalisation d'une certaine façon de l'obstacle avec la suppression du prétexte, le rossignol, mais avec une réaction aussi qui va être de dépasser l'empêchement de se rejoindre par la fabrication d'un objet symbolique qui va transformer le rossignol en relique. Ce rossignol, c'est un oiseau de la lyrique, là aussi, hein, c'est l'oiseau qui est un oiseau chanteur, qui est un oiseau nocturne, qui est associé à la reverdie, c'est-à-dire au renouveau printanier, le cadre favorable à l'amour qu'on retrouve là aussi dans la poésie lyrique et ailleurs. Et il est traité, cet oiseau qui donne le titre au lait, il est traité comme un symbole évolutif au fil du lait, puisque dans un premier temps, on voit qu'il vaut pour l'ami, au sens où la dame substitue le rossignol à l'ami comme raison de ses veilles nocturnes. Pour le mari aussi, hein, le rossignol est à la place de l'amant, au sens où il tord le cou au rossignol, mais il pourrait tordre le cou éventuellement à l'amant, dans le geste violent qu'il met en œuvre. Et puis, ce rossignol, il va métaphoriser au moment où il est jeté sur la poitrine de la dame et vient tacher son vêtement, il métaphorise cette fois-ci l'amour brisé, l'amour empêché entre les deux personnages. En même temps, ce qui est intéressant dans ce lait, c'est qu'il fonctionne aussi comme un commentaire de l'écriture poétique de Marie de France, notamment parce que la dame est un double de la narratrice. C'est la première narratrice de l'aventure, puisqu'elle va broder l'histoire sur le linceul qu'elle fabrique pour cet oiseau, et l'envoyer au chevalier, qui lui va faire figure de lecteur, et même de lecteur idéal, au sens où il va entrer dans la communication symbolique proposée par une surenchère. Il rajoute le surplus, si on reprend la formule qui était dans le prologue. Le bon lecteur, c'est celui qui sait ajouter le surplus, gloser la lettre. C'est ce que fait le chevalier en fabriquant un reliquaire, une châsse de pierres précieuses pour conserver cet oiseau. Et cette châsse, on peut y voir, ou ce reliquaire, on peut y voir une métaphore des laits comme une sorte de mémorial des aventures celtiques, des aventures bretonnes conservées, avec l'image d'une écriture ciselée, comme les pierres précieuses utilisées pour fabriquer le reliquaire. Les laits sont une sorte de boîte précieuse pour conserver la mémoire des laits, comme celle du rossignol ici. Donc cet oiseau qui représente le chant, il peut du coup métaphoriser aussi ces les Bretons qui chantaient, qui étaient musicaux, et en même temps qui ne chantent plus, mais qui sont sublimés ou transformés ou sacralisés d'une certaine façon par le travail de l'écriture poétique sur lequel Marie de France insiste lorsqu'elle dit qu'elle a fait des rimes, des vers et qu'elle a souvent veillé, comme on l'a entendu tout à l'heure. Pour souligner le jeu des échos que j'évoquais tout à l'heure comme un des aspects du recueil, on peut faire un parallèle avec deux autres laits qui mettent en scène des oiseaux, Yonek, puisque dans le lait de Yonek, la dame mal mariée va formuler un vœu et voir surgir un oiseau qui va se transformer en beau chevalier. Donc là, l'oiseau et le chevalier sont une même personne par métamorphose, par le jeu de la métamorphose. Et puis dans Milon, dans le lait de Milon, on a deux amants qui communiquent par un signe, l'oiseau, le signe, ce qui est en plus évidemment un jeu de mots, puisque des lettres sont cachées dans les plumes de l'oiseau pour masquer la communication entre deux amants. Donc on a comme ça cette présence des oiseaux qui constitue une sorte de leitmotiv dans les lettres. Et puis il me semblait intéressant de signaler que Hersant de la Ville Marquée, à la fin du 19e, a collecté une chanson en breton dans les Monts d'Arrée, qui reprend exactement l'histoire du rossignol, mais c'est vraiment exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas la fabrication de l'objet symbolique du reliquaire à la fin, comme dans le texte de Marie de France. Donc on voit que la transmission de l'histoire, elle a continué par des voies qu'il faudrait examiner peut-être plus en détail, mais entre le Moyen-Âge et le 19e, cette histoire du rossignol a survécu, et là dans une chanson, donc si je ne me trompe pas, accompagnée de musique dans la langue bretonne cette fois.